Victoire, province du Nord Kivu. 17 civils ont été tués lors de l'incursion des présumés rebelles ougandais ADF dans la nuit de dimanche à lundi 15 mars dans la commune rurale de Boulongo, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. Les sources locales qui livrent ce bilan provisoire signalent que d'autres personnes sont portées disparues. Hier lundi, les jeunes en colère ont manifesté dans le centre commercial de Boulongo avec les corps sans vie. Entre-temps, un déplacement massif de la population de Boulongo s'observe, les uns en direction de Kassindi et les autres en direction de Beni. Les sources sur place à Boulongo renseignent que l'armée poursuit l'ennemi dans la forêt. Pourquoi, selon vous, le gouvernement congolais n'arrive pas à mettre fin à ces massacres à répétition? Quelle serait la bonne option pour en finir avec les ADF? Nous en parlons ce soir avec Maître Juvenal Munubo, député national élu de Walikale au Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Maître Munubo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kouté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national, élu de Goma au Nord Kivu et cadre de la coalition Lamouka, il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Kasekwa, bonsoir. Jean-Baptiste Kasekwa, est-ce que vous êtes en ligne? Apparemment, il a des petits soucis avec sa ligne téléphonique. Allô? Vous m'entendez, Jean-Baptiste Kasekwa?
Oui, là, je suis toujours là.
On vous entend très mal. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Et Jean-Jacques Rondeau, analyste politique, il est diplômé de l'École royale en Belgique, breveté des hautes études de sécurité et défense. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Sociologie politique militaire africaine ». Jean-Jacques Rondeau, bonsoir.
Bonsoir Madame Kouté, bonsoir aux intervenants à cette émission et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Okapi à envoyer vos réactions. C'est le cas de Maître Edmond Boloko depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. La responsabilité de ces tueries dans la partie est du pays incombe à toutes les autorités, tant nationales que provinciales. En lieu et place de ces tiraillés à Kinshasa pour la répartition des ministères, les autorités congolaises devraient trouver une solution afin de mettre fin aux groupes armés vivant dans cette localité du pays. Benjamin Sivonzir est depuis Beni au Nord Kivu. Je pense que le gouvernement est incapable d'en finir avec les ADF à cause du manque de moyens logistique et matériel efficace sur terrain. La vérité est que l'armée n'a ni munitions, tenue militaire, nourriture et soins. Certains officiers se font passer pour des commerçants au lieu de s'occuper de la guerre. À Beni au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 92.3 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
En territoire de Beni, 17 civils tués, des personnes portées disparues, parmi lesquelles des pygmées. C'est encore le bilan provisoire de l'incursion des rebelles ADF la nuit de dimanche à lundi dans la commune rurale de Boulongo. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni, sur l'axe Beni-Kassindi. Sur place, on signale un déplacement massif de la population de Boulongo à Kassindi et à Beni. Marc Fimbo pour des précisions.
Les sources locales renseignent que c'est la nuit aux environs des 22h locales de ce dimanche que ces ADF ont fait incursion dans la commune rurale de Boulongo pendant que la population dormait déjà. Ces rebelles ont tué par machette 17 civils, comme le témoigne un habitant de Boulongo centre.
On vient de tuer des civils vers Nutilipi, un quartier situé en plus ou moins 1,5 km au centre commercial de Boulongo. Et d'autres personnes ont été portées disparues, mais aussi l'ennemi a passé vers Bahasa. Il y a quelques pygmées qui ont été portées aussi disparues par ces ADF-là. Mais la situation vraiment est très compliquée. Toutes les activités sont paralysées depuis ce matin.
Après une opération silencieuse, ces rebelles ont tiré des coups de feu avant de se retrancher du centre commercial de Boulongo pour la forêt. Et ce sont des coups de feu qui ont alerté la population du danger qui était au milieu d'elle. Ce lundi matin, le jeune en colère manifeste dans le centre commercial de Boulongo avec les corps sans vie. Lors de leur manifestation réprimée par les éléments de la police, un jeune garçon d'une vingtaine d'années est mort après être touché par balle. À l'instant, un déplacement massif de la population de Boulongo s'observe, les uns en direction de Kassindi et les autres en direction de Beni. Les soucis place à Boulongo nous renseignent que l'armée poursuit l'ennemi dans la forêt. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Merci Marc Marofimbo, maître Juvenal Mounoubo. Vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu, cadre de l'UNC, parti membre de la coalition au pouvoir et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Le territoire de Beni a une nouvelle fois été la cible d'une attaque des ADF dans la commune rurale de Boulongo. 17 personnes tuées, c'est encore le bilan provisoire. Votre lecture de cette énième attaque de l'ADEF.
Madame Kéline Kouté, c'est révoltant ce qui se passe à Beni. C'est pourquoi? Parce que si on peut faire une estimation, c'est presque 1500 personnes tuées depuis octobre 2014. Le débit des premières tueries dans la zone de Beni par les ADF, attribuées aux ADF. Et donc, les populations ont raison de s'inquiéter. Il y a de bonnes raisons d'être même révoltées par ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une situation de non-assistance à personne en danger. Nous ne cesserons pas, c'est vrai, je suis député de la coalition au pouvoir, vous l'avez mentionné, mais nous ne cesserons pas de rappeler le gouvernement à prendre ses responsabilités. Les institutions doivent voler au secours des populations de Beni. Nous attendons là un nouveau gouvernement qui va entrer en fonction bientôt. Il faut qu'on voie dans les programmes du gouvernement des actions concrètes qui vont dans le sens de mettre fin définitivement à cette situation qui n'a que trop duré à l'est du Congo et précisément à Beni.
C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé, maître Juvenal.
Aux familles des victimes, mais je pense que des actions doivent impérativement être menées et le nouveau gouvernement qui arrive doit prendre la situation en main.
Vous rappelez la même chose aux différents gouvernements qu'on a eu, mais la situation ne change pas. Est-ce une question de manque de volonté ou il y a autre chose qui se cache derrière cette situation?
Alors, dans les détails, il y a un problème de motivation pour les militaires. Ils ne sont pas encore bien motivés à bien faire leur travail. Il y a un problème des équipements. Moi, quand j'étais sur terrain, on me disait qu'ils n'ont pas de carburant, ils manquent des médicaments. Des matériels roulants aussi, c'est pas suffisant. Des matériels de détection, ils n'ont pas de drones de surveillance. Mais on peut dire qu'en résumé, c'est un problème de volonté politique. Parce que la volonté politique ne peut pas être qu'exprimée, déclarée. La volonté politique, elle doit se manifester. En tout cas, le secteur de la sécurité a souvent manqué, a souvent fait défaut. La volonté politique a souvent fait défaut dans ce secteur. Alors, il y a un nouveau... D'abord, il y a l'alternance qui est intervenue il y a pas longtemps. Et puis, il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Moi, je crois que il faudrait... C'est vraiment dans l'intérêt des nouvelles autorités congolaises et le nouveau gouvernement qui arrive de faire les choses différemment. Et je crois que c'est dans l'intérêt à nous tous. Je suis membre de la coalition au pouvoir et je ne peux pas être complaisant à ce point de vue. Donc, nous allons voir dans les programmes du gouvernement qui sera présenté et surtout nous allons voir s'il y aura une feuille de route avec des actions concrètes pour mettre fin à cette situation de l'Est. Il faut renforcer les moyens militaires des FRDC. Il faut améliorer les relations entre les militaires et les civils. Il faut aussi une bonne collaboration entre les FRDC et la MONUSCO. Alors actuellement, il y a une nouvelle donne. C'est que de plus en plus, beaucoup d'observateurs estiment que le groupe ADF, c'est un groupe d'une nature particulière, c'est-à-dire un groupe terroriste. C'est une nouvelle donne et il faut analyser cette question en intégrant cette donne-là. Alors, ce sont les experts du département d'État qui nous le disent, mais il y avait déjà beaucoup d'indices dans ce sens-là. Et il y a même un chercheur sur terrain, M. Niquez, qui a écrit là-dessus. On avait déjà beaucoup d'indices. Quand on voit la manière, les modus operandi des ADF, la manière dont ils tuent les populations congolaises, quand on entend les cris qui sont lancés, les écrits qui ont été découverts dans certains base comme Medina Mayangose, eh bien, il y avait des soupçons. Je n'ai pas été étonné que les États-Unis, le département d'État, alignent les ADF parmi les mouvements terroristes. Ça, c'est une opportunité aussi pour Kinshasa de demander directement à l'aide. Parce qu'à ma connaissance, nous n'avons pas des appareils de géolocalisation, nous n'avons pas des équipements modernes pour mener à bout la lutte ou la guerre à cette phase-là. Parce que les principaux sanctuaires des ADF, il faut le dire, moi j'ai visité, j'étais à Nobili même. suis arrivé à Nobili, je suis arrivé à la rivière Siemoliki. Nous avons fait un survol par hélicoptère avec les FRDC. Il y a plusieurs bases des ADF qui ont été démantelées. On a survolé Madina Mayangose. Maintenant, il faut des appareils de repérage, il faut des drones, en tout cas des appareils modernes pour la géolocalisation, de façon à arriver à déceler les nouvelles caches des ADF. Et pour ça, il faut une très bonne collaboration avec la société civile, avec la population locale. Il faut aussi une bonne collaboration avec la MONUSCO. Et nous pensons que c'est une opportunité pour un accord de coopération avec les États-Unis, qui est très avancé, c'est la toute première puissance militaire au monde, de façon à ce que notre armée soit appuyée de l'intérieur tout comme de l'extérieur, et mettre fin définitivement à cette situation qui n'a que trop duré.
Maître Juvenal, vous attendez une feuille de route avec des actions concrètes du gouvernement Samaïk qui sera publiée bientôt, et pourtant on a eu plusieurs opérations, des opérations de grande envergure dans cette partie de la RDC. Pourquoi ça n'a pas marché selon vous? C'était des opérations qui n'étaient pas bien planifiées?
Alors, vous lancez des opérations, oui, vous le planifiez, oui, c'est une bonne chose, mais lorsque vous n'êtes pas en train de sanctionner les abus qu'il y a même au sein de l'armée, ça pose problème. Parce qu'il y avait aussi un problème d'impunité. Et il y a des militaires, quelqu'un l'a dit, non, par la bouche de votre collègue, il y a des militaires qui s'adonnent à autre chose que les métiers qui est les leurs. Alors, il n'y a pas assez de sanctions, et pourtant, il y a un mécanisme interne de sanctions et des poursuites. Il y a l'inspection générale des FRDC. Donc, il y avait des failles à ce niveau aussi. La lutte contre l'impunité au sein de l'armée, c'est un axe de travail. C'est un axe de travail et le nouveau gouvernement devrait l'intégrer. Moi, je pense que la situation, elle est révoltante, comme je l'ai dit. Je ne l'aménage pas, cette situation. Ils ont raison, ceux qui s'inquiètent. C'est nos compatriotes qui meurent là-bas, mais il faudrait qu'on voie et qu'on soutienne le nouveau gouvernement qui arrive, qu'on voie sa feuille de route, et si elle n'est pas enrichie, qu'on l'enrichisse avec des idées, et comme ça la question sécuritaire, elle devient partagée. Elle n'est pas que la question des institutions politiques. Donc il faut une mobilisation générale pour mettre fin à cette situation, il faut impliquer les voisins, ce n'est pas qu'ils doivent nous envoyer encore leurs troupes ici, nous en avons assez, ils ont eu à le faire dans le passé, mais au moins qu'ils nous partagent les renseignements. Et dans le cas de la CIRGL, il y a lieu de se partager des renseignements. Et je suis révolté, mais je ne suis pas sceptique.
Merci, on vous garde encore dans cette émission. Jean-Baptiste Mouindouka Sekwa, député national élu de Goma, au Nord Kivu et cadre de la coalition Lamouka. Vous êtes aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Votre lecture de la situation qui se passe à Beni, Jean-Baptiste Kasekwa. Une énième attaque des ADF, la population qui est massacrée presque toutes les semaines. La situation est en train de s'empirer, aucune solution. Votre analyse.
Je suis présentement à Beni, effectivement. Je viens de Boulongo, j'ai été à Madina. La situation que l'on constate, on se pose la question de savoir pour combien de temps le gouvernement de la RDC a-t-il planifié les opérations. Concrètement, les offensives militaires lancées en octobre 2019 n'ont été soutenues que pendant 3 mois, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre 2019. Depuis 2020, de janvier jusqu'à ces jours, eh bien, comme je vous le disais, je viens des différentes lignes de front, les militaires sont complètement abandonnés malgré leur bonne volonté. Et donc, pour moi, la toute première raison, c'est que de la même manière que la question de la gratuité a été lancée comme de part pour des objectifs de propagande, les offensives militaires sont lancées dans la même perspective, dans les mêmes conditions. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que des militaires fassent 30 jours sans vraiment une ration suffisante, ils ne vivent que des chikwangs, que les commandements sur place ici se débris. Donc pour moi, non seulement la volonté est absente, mais également cette absence de volonté se manifeste par une absence de suivi de la traçabilité du minimum qui a été débloqué. Depuis le ministère de la Défense, en passant par l'état-major général, la zone de défense, jusqu'au commandement des secteurs ici à Beni, s'il peut débloquer un petit montant, par exemple, de 50 000 dollars, je peux vous rassurer, madame, mon impression, c'est que c'est probablement les 1/10 qui arrivent sur le terrain. Et donc, le véritable ADF se retrouve à Kinshasa, se retrouve dans la chaîne de commandement de FARDC, alors que les hommes de troupes sur le terrain, comme je vous l'ai dit, j'étais hier dans le Graben à Mwalika, je vois des vaillants militaires déterminés à finir en découdre. Ils vous disent que les LTF ne sont pas aussi mystérieux qu'on les dit. Je vois des compatriotes congolais qui sont prêts à tout apporter pour soutenir notre armée, qui sont déterminés, qui se disent nous n'avons pas un autre territoire que Beni. Donc, pour moi, le problème, il est d'abord politique. Les opérations militaires sont lancées comme par aventure pour les acteurs politiques à qui c'est ça. Beni n'est pas un enjeu politique majeur pour eux. Voilà pourquoi ils ne s'en préoccupent pas.
Alors Jean-Baptiste Kasekwa, il faut lutter contre l'impunité au sein de l'armée. Comme l'a dit tout à l'heure Maître Juvenal Mounoubo, vous pensez que ça pourrait améliorer ou motiver les militaires qui sont au front si ils étaient bien payés par exemple?
Madame, les militaires, ils sont à Boulongo, là où il y a des attaques. Ils n'ont même pas une jupe pour faire les interventions militaires. Ils n'ont pas d'équipement. Ils manquent de tout. Bon, ce n'est pas une raison pour qu'ils abandonnent la population, parce qu'effectivement, les renseignements sur terrain à Boulongo, d'où je viens, c'est que les populations ont informé les militaires depuis le samedi qu'il y avait des mouvements suspects. Les militaires, les populations disent d'ailleurs que 3 jours avant, il y a une position qui avait été dégarnie et pour eux c'était déjà dangereux. Il y a eu quelqu'un, un papa qui est parti aviser la police, il a été arrêté et n'a été libéré que le lundi. Donc la population fait sa part pour donner les alertes. Est-ce que c'est par manque de moyens, d'équipement, que nos militaires se refusent d'intervenir? Et c'est ce qui anime effectivement les relations entre la population et l'armée, d'autant plus que déjà en décembre, lorsque Boulongo, Mutuanga, Lossé-Lossé et toutes ces localités avaient été attaquées, endeuillées, la population avait décrié le même comportement d'avoir alerté que l'armée n'était pas intervenue. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis le temps, les populations qui manifestaient hier réclamaient qu'elle fasse départir de ce point-là, le major 00, qui, à maintes reprises, est accusé par ces populations de non-assistance à personne en danger. Mais donc, de toutes ces circonstances-là, on constate que, manifestement, il y a manque de volonté. Et cette absence de volonté n'est pas à accuser dans les chefs des militaires sur le terrain, elle est plutôt à déplorer dans les chefs de la gouvernement et de la hiérarchie militaire.
Alors vous venez de dire tout à l'heure, Jean-Baptiste Kasekwa, que la population dit avoir averti les militaires, mais il n'y a pas eu d'intervention. Entre-temps, vous l'avez reconnu vous-même que ces militaires manquent de tout. Comment vont-ils assister cette population alors qu'ils n'ont rien?
Bien, c'est là que j'ai dit, j'ai rencontré certains militaires, certains officiers qui ont les larmes aux yeux. Ils disent, en novembre, octobre, décembre 2019, nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Certains sont morts, mais le gouvernement de Kinshasa nous abandonne et aujourd'hui nous retrouvons les opérations qui recommencent à zéro. Même les positions, moi je le disais, j'étais à Mwalika hier. Je vois le maman contente de l'air militaire du fait que ces mamans-là ont commencé à reprendre les activités champêtres dans les gravelles. Mais ces militaires abandonnés à eux-mêmes se disent, mais à tout moment, ces positions que nous avons conquises au prix du sang de nos compatriotes risquent à nouveau d'être abandonnées parce que les militaires manquent de tout. Vous vous imaginez, madame, il y a eu des hélicoptères ici. On a fait départir ces hélicoptères-là d'ici jusqu'à une destination inconnue. D'autres ont été amenés vers Hotouele, on nous a parlé des caches. Et finalement, même pour des renseignements, l'armée est obligée de ne dépendre que des informations livrées par les drones de la MONUSCO. Est-ce que notre gouvernement est incapable de doter l'armée des drones, de doter l'armée des hélicoptères? Pourtant, je suis de la commission de défense et sécurité. J'ai vu des dépassements budgétaires allant jusqu'à 1400% à la présidence. Et vous venez constater ici qu'au cours d'un mois, on donne seulement $5000 pour toutes les opérations militaires à Beni. Est-ce Est-ce que le gouvernement a réellement la volonté?
Merci Jean-Baptiste Kassekwa. Jean-Jacques Wundo, vous êtes analyste politique, vous êtes diplômé de l'École Royale en Belgique, breveté des hautes études de sécurité et de défense. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Sociologie politique militaire africaine ». Comment vous analysez cette situation de Béni?
Oui, madame, écoutez, la situation de Béni appelle d'abord à l'exaspération et je comprends cette exaspération populaire et permettez-moi d'abord de présenter encore une fois de plus les condoléances aux familles qui sont touchées par ce massacre d'il y a quelques jours. Et en un mot, ça a été dit tout à l'heure, cette situation dénote d'un manque d'une absence de volonté politique, quand je dis volonté politique, de la part des autorités à l'échelon national qui sont censées prendre des mesures pour pouvoir trouver des solutions idoines et adéquates par rapport à la situation qui se passe à l'Est. Je vous donne une petite anecdote. Hier, on a assisté à la rentrée parlementaire entre les deux chambres réunies et on a vu qu'il y a eu une cérémonie d'hommage au sénateur Lokondo qui est décédé et à son âme. Mais en aucun moment, dans les interventions auxquelles on a assisté, on a fait allusion à ces massacres qui se sont déroulés la veille. Cela est illustratif de l'état d'esprit politique, non seulement au niveau du pouvoir exécutif, mais aussi au niveau du législatif, où cette situation me semble-t-il n'est pas prise au sérieux. Et quand je parle de la volonté d'absence de volonté politique, nous on a vu que lorsque les opérations ont été lancées de grande envergure, il y a eu toute une litanie de discours pour vanter ces opérations, alors que sur le terrain, on savait qu'il y a eu une impréparation dans l'organisation, dans la planification des opérations. Il y a eu précipitation dans le lancement des opérations. Et on a constaté aussi qu'il y a une désorganisation de commandement, dans les structures de commandement, de sorte qu'on a eu une superposition de plusieurs unités ou responsables de commandement et cela fait qu'on s'est retrouvé dans une situation qu'on utilise dans le jargon militaire de contradiction par rapport au principe d'une unité de terrain, unité de commandement. Ce principe veut que quand on mène une action sur un terrain bien déterminé, il faut qu'on sache qui est le commandant d'opération et qui est le responsable qui est capable d'avoir une vision générale ou panoramique de toutes les opérations, de toutes les unités qui sont déployées sur le terrain. On constate que dans les unités qui se passent, dans les opérations qui se passent à Béni, par exemple, on a vu, on ne sait pas si c'est le commandant de la troisième zone de défense qui est le commandant des opérations. Parfois, il intervient dans les opérations. On ne sait pas si c'est le commandant de la quatrième région militaire qui est le commandant des opérations ou le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 qui est le commandant des opérations. Et même pendant le lancement, on a vu pas moins de 10 généraux aller sur le terrain pour se retrouver à partager le patron qui était là. Donc il y a cet aspect-là de désorganisation du commandement, mais aussi cet aspect de démotivation des troupes qui n'ont pas vu les moyens qui sont alloués d'abord aux opérations ne pas venir. On a vu qu'il y a eu des problèmes de logistique et aussi un problème de renseignement. Aujourd'hui, on a toujours facile tendance à dire que ce sont les ADF, et ça devient comme une soupe pour tout le monde, pour s'en défendre. Mais ces ADF, comme l'a dit le député Moïndo tout à l'heure, ils ne sont pas aussi redoutables qu'on ne le pense. Parce que d'un côté, on parle des ADF, de l'autre côté, on pointe des dysfonctionnements qui se constatent au niveau de l'armée. En 2014, je pense que les députés Mounoubo faisait partie, si j'ai une bonne mémoire, de l'équipe qui est allée, d'une mission parlementaire qui est allée au Kivu. Ils ont fait des bonnes recommandations. Mais au niveau du Parlement, vous avez, par exemple, une mission de contrôle de l'action de l'exécutif. Ils ont proposé des recommandations qui pouvaient amener à ce que l'exécutif ou les responsables politiques puissent réagir efficacement. Et c'était une bonne feuille de route pour permettre même d'orienter les opérations. Aujourd'hui, tout cela est une feuille morte. Et aussi dans l'armée, on a aussi cette notion de retour d'expérience.
Aujourd'hui, les attaques d'aujourd'hui ne sont pas différentes de celles que nous avions connues en 2014. Et pourtant, en 2014, il y a eu quand même du succès. On a eu des résultats positifs que le général Bahoum a pu avoir sur le terrain. Mais pourquoi ne pas tenir compte de ce qu'on appelle le retour d'expérience VTEX pour essayer de voir ce qui a marché par rapport à ça, parce que le modus operandi reste la même chose. Moi, je pense qu'il y a un problème autrement structurel, un problème de volonté politique. C'est comme si il s'est dit quelque part qu'il faut laisser cette situation à l'État et faire semblant qu'on résout le problème.
Mais on a l'impression, Jean-Jacques Kondo, que la volonté politique y est, puisque le gouvernement débloque de l'argent pour ces opérations.
Mais où va cet argent si le gouvernement débloque cet argent? Où va cette opération? Et si réellement le gouvernement débloque cet argent, comme l'a dit le député Mounoubo tout à l'heure, au sein de l'armée, il y a un mécanisme d'inspection pour non pas seulement contrôler le fonctionnement ou l'évolution des opérations, mais comment cet argent est alloué aux différentes troupes. Entre-temps, on sait qu'il y a des commandants d'opération qui n'obéissent pas à leur hiérarchie directe. Donc, tout ça est connu sur le plan politique. Donc, il n'y a pas seulement que l'aspect financier, mais c'est, tout est global. C'est comme s'il y a une main noire qui veut que la situation s'enlise. Parce que s'il y avait une volonté, on aurait eu droit aux sanctions.
Jean-Jacques Mondo, le problème, est-ce que ce n'est pas aussi le mode opératoire de ces ADF qui sont identifiés aujourd'hui comme des terroristes, comme la branche de l'État islamique opérant en RDC? Est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème? Leur mode opératoire est différent de celui de l'armée congolaise. Est-ce que ça ne rend pas la tâche un peu difficile aux militaires des forces armées congolaises?
Je dirais en partie, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le mode opératoire des ADF de 2020-2021 n'est pas différent du mode opératoire des ADF de 2014. Et pourtant, en 2014, le général Bahoum est parvenu quand même à contrôler la situation et même à faire fuir Jamil Moukoul vers la Tanzanie. Mais effectivement, pour répondre à votre question, cela relève aussi un autre aspect de l'échec des réformes des services de l'armée. Parce qu'il y a eu un plan de réforme de l'armée qui s'était mis en place et qui s'est arrêté en 2013, en 2014, on a essayé de le relancer. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que par manque de volonté politique, par manque de moyens. Aujourd'hui, nous avons une armée qui n'a pas de loi de programmation militaire censée planifier le budget pluriannuel pour pouvoir doter l'armée de moyens adéquats, pour pouvoir la moderniser. Aussi, nous n'avons pas, par exemple, des unités spéciales, parce que ce genre de menaces nécessitent la mise en place d'unités spéciales, c'est-à-dire d'unités commando. Mais bon, on en a eu, mais c'est le Congo d'ailleurs, la seule unité qui était capable de mener cette action et qui a même mené cette action, qui est sur le terrain, mais avec des moyens limités, qui a été formée par exemple par la Belgique. On a vu que cette formation et cette coopération du jour au lendemain a été suspendue pour des relents, pour des motifs politiques, alors qu'on en avait besoin pour former des unités capables de mener le combat en profondeur, parce que l'armée classique elle peut être limitée par certains moyens.
Ben, merci.
De l'autre côté, il y a aussi cet aspect du renseignement. Tant que vous n'avez pas un bon renseignement, tant que vous ne savez pas identifier l'ennemi, ben vous pouvez amener les Américains ou les Russes sur le terrain, ils ne feront rien. Je donne l'exemple, par exemple, au Mozambique, où le groupe Wagner et les Russes sont allés combattre Ansar el-Sunna, donc les islamistes qui se battent là-bas, ben, ils ont mordu le doigt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de renseignement. Or, chez nous, le renseignement pose aussi problème parce qu'on sait qu'il y a des éléments au sein des services de renseignement qui ont une loyauté, qui sont déloyales vis-à-vis du Congo. Ce qui fait qu'ils ne donnent pas le bon renseignement pour pouvoir identifier, localiser, fixer et attaquer l'ennemi au bon moment.
Merci Jean-Jacques Kondo. On vous garde dans cette émission. Les auditeurs sont très très nombreux à appeler sur notre standard. On va prendre pour vous, Maître Juvenal Mounoubo, cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga de Kisangani dans la province de la Tchopo. Tout en présentant les condoléances les plus attristées aux familles des victimes, plusieurs causes expliquent l'incapacité du gouvernement à mettre fin à ces massacres à répétition perpétrés par les ADF dans la partie est du pays, particulièrement dans les territoires de Beni. Il s'agit entre autres de la difficulté du gouvernement à pouvoir identifier correctement l'ennemi dans cette guerre asymétrique, la complicité de certains hauts cadres de l'armée et de la police dans ces massacres qui trahissent les stratégies du gouvernement chez l'ennemi, manque de collaboration entre les services de sécurité et les populations locales, l'inefficacité de l'armée à pouvoir anticiper les attaques pour ne citer que cela. Pour en finir avec ces massacres, il faut que le gouvernement puisse d'abord assainir l'armée et la police en vue de traquer tous les infiltrés et les traduire en justice. Il faudrait aussi améliorer les conditions de vie des militaires qui combattent sur le front et renforcer leur équipement en armes et en munitions et enfin solliciter l'implication de la communauté internationale pour combattre ces terroristes qui tuent les paisibles citoyens congolais.
Maître Juvenal, cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, mais que pensez-vous de sa réflexion ?
En tout cas, je suis d'accord avec Rémi Lukonga. Il vient de faire un bon diagnostic. Je suis d'accord avec lui. Quand il parle d'identification, évidemment, on n'en a pas assez parlé depuis qu'on a commencé l'émission d'aujourd'hui. Il se pose encore parfois un problème d'identification même des assaillants. Prenons les cas, et là, à part Beni, voyons ce qui se passe pas très loin de Beni. La mort tout récemment de l'ambassadeur Luka Tanasio, tout près de Goma. Cet acte est attribué au FDLR? Est-ce que c'est attribué à d'autres groupes, à d'autres milices locales? C'est attribué à qui finalement? On est dans une zone où on ne sait pas identifier clairement, à part le fait qu'on sait que voilà, les ADF se trouvent de ce côté-ci, mais en réalité, Kinshasa, au niveau de l'armée, j'ai vraiment comme l'impression qu'on n'arrive pas à identifier clairement les assaillants et les groupes d'assaillants là où ils se trouvent. Donc le travail d'identification doit continuer. Je suis tout à fait d'accord avec Rémi à ce niveau-là. C'est parmi encore des maillons faibles. Et pourtant, il y a des études. Hein. Il y a par exemple les groupes d'études sur le Congo qui fait une cartographie, hein, qui les met régulièrement à jour. Il y a moyen de s'en inspirer. Alors, autre chose, les conditions de vie du militaire, c'est très important, hein. Il a souligné cela, parce que l'armée, ce n'est pas seulement les équipements, l'armée c'est d'abord les hommes qui combattent, hein. Il faut qu'ils soient motivés, ils ont des familles. Ce qui démotive aussi les militaires, c'est que lorsqu'on voit les conditions de vie de leur famille, d'abord eux, ils ne reçoivent pas ce qu'ils devaient recevoir, et puis leur famille souffre, et du coup ils sont écartelés, et ils n'ont pas la motivation nécessaire.
Jean-Baptiste Kasekwa, lance une réaction pour vous qui nous vient de Boma, au Congo central.
Au nom de Congo central, Boma, pour moi le gouvernement n'arrive pas à mettre, disons, à finir avec ces groupes rebelles, parce qu'il y a trois variantes. Ils font à ce que le gouvernement n'arrive pas. Un, nous pouvons commencer par ce qu'ils sont installés au Congo Zaïre depuis 25 ans, ce qui leur permet de maîtriser mieux la zone que le FARDC. Deux, sont dirigés par les officiers ougandais et comptent près de 1500 hommes. Ils ont une base arrière redoutable. Trois, ont issu des réseaux avec le groupe Mai Mai et certains officiers FARDC, c'est un appui interne aussi sur 4, ils exploitent le minerai et du bois, ce qui leur permet, ils exploitent également le minerai et du bois, ce qui leur permet de faire l'argent. Et enfin aussi, le rapprochement ou association de l'État islamique. Pour en finir avec eux, demander une collaboration régionale à défaut internationale, surtout notre pays doit avoir une armée formée à la guerre asymétrique et dotée de tous les moyens nécessaires.
Bref réaction, Jean-Baptiste Mwindoka, c'est quoi?
Alors, la population de Beni n'est pas d'accord avec ces discours de mystification des criminels ADF. Tenez par exemple, madame, lors de l'attaque de Mambelenga vers l'Ituri, des citoyens congolais à main nue ont pourchassé ces rebelles qui sont venus à 14 heures. Ils ont tué des populations à plein marché, en plein jour. Les jeunes les ont poursuivis et en ont tué 4. les jeunes gens ont ramené l'arme, ils ont remis l'arme au FNDC et ces jeunes gens-là ont été arrêtés, jetés en prison. Les jeunes gens, à Boulongo même, tout comme à Lomé, les jeunes gens ont décidé avec des papas de passer nuit dehors en train de faire des patrouilles autour du feu de manière à alerter, à informer nos services de sécurité, les phases d'essai à temps. Mais ces jeunes gens-là, ces patrouilles ont été dispersées. Et curieusement, ce matin, j'ai posé la question à un officier pour savoir comment expliquer que ces gens soient venus tuer déjà au milieu de la cité de Boulongo. C'est vraiment au milieu et non de la, à la périphérie et aucun assaillant n'a été attrapé. Et cet officier me dit, honorable, nos patrouilles étaient vraiment à travail. Mais nous n'avons su jusqu'à présent aucune trace par laquelle ces gens-là sont venus. Pourtant, au même moment, l'armée qui est en opération ici disperse ces initiatives de patrouille de la jeunesse. Donc, il n'est pas d'accord de mystifier ces gens-là. J'ai été hier dans la collectivité des Bajou à Moalika, comme je l'ai dit. Mais l'armée vous raconte comment, avec la détermination de la population congolaise que j'admire ici, à attendre les jeunes gens dire nous n'abandonnerons jamais nos terres, nous n'abandonnerons jamais le Congo. Et l'armée témoigne qu'avec la bravoure de ces jeunes gens-ci, qui nous ont servi de pisteurs, nous avons pu libérer la position de la haie, nous avons pu libérer Madina. Et donc, ces gens-là ne sont pas à mystifier.
Jean-Jacques Kondo, on a une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
Abamungu Balibuza de Bukavu, paix aux âmes des compatriotes disparus. Je me joins à l'indignation des habitants de Beni qui, à tort ou à raison, s'estiment déjà abandonnés par l'État congolais. Le chef de l'État sortant, son successeur ainsi que leur gouvernement n'ont pas, malgré leurs promesses, réussi à stabiliser cette région. D'opération en opération militaire, elles aussi ne parviennent pas à traquer l'ennemi estimé en présumé en petits groupes dispersés. Sans minimiser l'effort des cuisines du pays, qui payent également de leur sang pour stabiliser Beni, je pense que la solidarité sur terrain n'est pas efficace, faute d'une bonne politique, ou soit l'ennemi est infiltré dans les forces loyalistes. C'est pourquoi l'ennemi n'est pas identifiable par le FARDC. Chers politiciens congolais, ce n'est pas du bétail conçu à Beni, mais vos compatriotes, vos électeurs, vos maires, vos sœurs et frères.
Jean-Jacques Kondo, vous avez suivi cet auditeur de Bukavu qui a donné son point de vue par rapport à la situation de Beni. Une brève réaction de votre part.
Oui, une vraie réaction. Ben, l'auditeur parle, se pose la question si la population de Beni n'est pas abandonnée par les autorités. Et c'est un aspect qu'on a évoqué au début parce qu'on a l'impression que ce qui se passe dans cette zone, ben, il ne faut pas prendre des mesures pour pouvoir éradiquer l'insécurité. Mais il y a aussi le fait que l'auditeur se pose la question si l'ennemi ne se retrouve pas au niveau de l'armée même. Et ça, on l'a évoqué aussi, et je peux même donner un exemple. Hier, on a eu l'information selon laquelle une perquisition faite par les magistrats militaires, on a trouvé au moins 82 caisses de munitions dans une maison privée. Donc, cette question, ces aspects, je le dis, ont été évoqués et aussi notés dans le rapport d'une mission d'enquête. Et la situation continue à se maintenir. Donc le problème ne se situe pas uniquement au niveau de l'ennemi qu'il faut identifier. Je l'ai dit aussi, un problème d'identification de l'ennemi parce que on met tout sous la sauce du RDF, ADF. Bon, là, on peut faire aussi une nouvelle émission là-dessus. Mais je pense qu'il faut d'abord voir le fonctionnement de FARDC, où il y a des complicités, où il y a des unités déloyales qui évoluent sur le terrain depuis des années, alors qu'ils sont des unités qui autrefois ont combattu contre le Congo, où il y a des officiers qui sont pointés parfois
par les rapports des Nations Unies et dans les actions commises sur le terrain. Donc moi, je pense que le bon remède serait plutôt...
Justement, j'allais vous poser la question, quelle serait la bonne option, selon vous, pour en finir avec ces ADF?
Il n'y a pas une option idéale. Je pense qu'il faut d'abord une prise de conscience politique, une volonté, une volonté politique, mais une détermination politique, et aussi faire une bonne réforme de l'armée qui soit accompagnée par des mesures judiciaires efficaces, mais aussi réactiver la mise en place de l'application de l'accord Addis Abeba, parce qu'on sait que l'insécurité au Congo n'est pas une insécurité endogène, mais il y a aussi des causes exogènes, surtout dans les pays voisins, notamment le Rwanda, qui est quand même aussi assez actif via certains réseaux de milices qui évoluent au Congo. Donc c'est facile de mentionner uniquement ADF, mais il faut comprendre sous ces vocables ADF qui sont réellement les assaillants et ils répondent à quelle motivation. Donc je pense que ça demande une nouvelle réforme des services de sécurité. Et aujourd'hui, on parle d'un nouveau gouvernement. Et je pense que si ce gouvernement veut réussir à la fin du mandat, la sécurité doit être la priorité des priorités. Il faut prendre les mesures qu'il faut, mettre les gens qu'il faut et faire des réformes, déplacer des unités qui sont là depuis des années, fatiguées et qui dont on met aussi les complicités, et de déplacer certains responsables qui évoluent dans cette zone.
Merci.
Sinon, la situation va rester identique jusqu'en 2023.
Merci Jean-Jacques Ondo, on va vous libérer parce que vous avez une réunion tout à l'heure. Merci d'avoir participé à cette émission. Maître Juvenal Mounoubo, vos propositions pour en finir une fois pour toutes avec ces ADF?
Ah oui, nous attendons. Il faut que le gouvernement, dans les programmes, comme je le disais, et surtout dans la feuille des routes, qu'on ait des actions concrètes. Qu'est-ce qui va être fait et qui n'a jamais été fait dans les secteurs de la défense, de la sécurité, pour mettre fin à cette situation? Et donc, nous allons suivre. Il faut qu'il y ait des propositions qui vont dans le sens du renforcement du DDR. Il faut qu'il y ait des propositions qui vont dans le sens aussi de l'accélération, la réforme du secteur de sécurité. On n'a pas parlé assez du DDR, mais le DDR, c'est très important. Tous ces ex-combattants qui sont dans les groupes armés et qui n'ont pas de perspectives, eh bien, il faut leur montrer des perspectives, des réinsertions dans la vie civile, et ça va créer un effet où ils vont vider les groupes armés pour venir se réinsérer dans la vie civile. Il faut aussi lier les programmes DDR et pourquoi pas fusionner même avec les programmes de stabilisation. Il faut aussi qu'il y ait des actions et des projets de stabilisation. Vous amenez une route dans des zones enclavées, que ce soit à Beni ou à Walikale, la route, ça va faire en sorte que l'insécurité puisse partir. Donc il faut inverser parfois les choses et attendre de nouveaux résultats.
Merci Maître Juvenal. Jean-Baptiste Mouindo, c'est quoi votre conclusion? Quelles sont vos propositions?
La première proposition, c'est que la population congolaise doit mettre en application l'appel du militaire de la Lucha qui a été tué portant la pancarte qui disait « Il n'y a pas de Congo Sabeni, protégez-nous aussi ». Nous devons nous mobiliser de Lubumbashi, Matadi, Kinshasa, Bukavu, Kisangani, partout, pour que la cause de Beni soit prise comme une priorité, de la même manière que nous nous sommes mobilisés pour défendre Bukavu en juin 2004, pour défendre Goma en décembre 2012. La deuxième des choses, il faut une commission d'audit pour dégager exactement combien de fonds ont été bloqués du trésor public en octobre 2019 pour les opérations de Beni. Quel montant a été retenu au niveau du ministère de la Défense? Nous sommes informés du principe de la pratique de rétrocommission au niveau du ministère de la Défense, au niveau de l'état-major général,
enfin,
au niveau de la zone de défense. Il faut que l'Assemblée se ressaisisse. En troisième lieu, il faut privilégier la collaboration, intégrer, impliquer les populations civiles à la défense de l'intégrité en application de l'article 63. Parce que les populations de Beni sont déterminées à ne jamais lâcher les
coups. Merci. Merci Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, qui m'a été Dola Madimba, Martin Seboujangwe. Merci à William Lungamba qui est à la mise en onde, présentation et coordination, Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.